Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3 pour parler environnement et économie avec Othman. Salut Othman.
Salut, salut, bonjour.
Pour commencer, pour aujourd'hui, on voulait parler des aires protégées au Canada pour tout ce qui est croissance économique et biodiversité. Qu'est-ce qu'on entend par aires protégées?
Alors, les aires protégées sont des zones géographiques désignées et gérées afin de préserver la biodiversité, les écosystèmes, mais aussi les services qu'ils fournissent. Alors, les aires protégées jouent un rôle crucial dans la conservation de la nature et offrent également des avantages économiques et sociaux. Selon les données du gouvernement du Canada les plus récentes, à la fin de 2023, environ 13,7% des zones terrestres et des eaux antérieures du Canada étaient reconnues comme étant conservées grâce à des réseaux d'air protégés et d'autres mesures de conservation efficaces par zone, dont il y a 12,8% dans des aires protégées. De plus, 14,7% approximativement sont des aires côtières et marines du Canada étaient conservées et aussi dans 9,1% des aires protégées. Voilà.
Le Canada, est-ce que le Canada s'est fixé des objectifs précis en matière de conservation?
Oui, absolument. Le Canada a adopté des objectifs ambitieux pour renforcer sa politique environnementale. Concrètement, le gouvernement canadien s'est engagé à protéger et à conserver 25% de ses terres et de ses eaux antérieures d'ici 2025, okay, avec l'objectif d'atteindre 30% d'ici 2030. Ces engagements s'inscrivent dans une vision à plus long terme qui consiste à freiner et même inverser la perte de biodiversité à l'échelle nationale. Cette approche va bien au-delà de simples cibles numériques. En fait, elle vise une remise en état complète des écosystèmes dégradés d'ici 2050, conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la COP15, mm-hmm, tenue à Montréal en décembre 2022. Pour y parvenir, le Canada mise également sur la collaboration avec les communautés autochtones, le gouvernement, les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que les organisations environnementales comme le SNAP Canada, qui jouent un rôle essentiel dans la mobilisation, la sensibilisation, etc. Alors, ces objectifs traduisent clairement une prise de conscience collective de l'urgence environnementale et marquant comme étant une étape déterminante vers une économie canadienne plus durable, plus résiliente face aux défis des changements climatiques.
Et sinon, quelles sont les principales catégories d'aires protégées?
Les aires protégées, si je veux parler seulement au Canada, sont classées selon les catégories de l'Union internationale pour la conservation naturelle, l'UICN. Cela inclut les réserves naturelles intégrales, les zones de nature sauvage, les parcs nationaux, les monuments ou éléments naturels, les aires de gestion des habitats ou des espaces, les paysages terrestres ou marines protégés et les aires protégées avec l'utilisation durable des ressources naturelles. Dans ce sens, en fait, j'aimerais poser moi-même la question sur comment ces aires protégées bénéficient-elles de l'économie canadienne? Les aires protégées favorisent la diversification des économies locales et régionales, notamment par le biais du tourisme, l'écotourisme. Et donnons l'exemple, en fait, le parc national de Banff en Alberta, mm-hmm, attire chaque année des millions de visiteurs, en générant des revenus significatifs pour la province. Et au Québec, les aires protégées couvrent environ 16,4% de la superficie du Québec, ouais, selon les données de 2021, mais maintenant ils sont augmentés de plus en plus. Cela aussi concordé comme étant une source touristique importante. Les aires protégées préservent la biodiversité, protègent les écosystèmes, les habitats fauniques et nous aident à atténuer les effets de changement climatique. Et aussi, celles-ci offrent des espaces pour des activités récréatives comme la randonnée, camping, observation de la faune, etc., contribuant ainsi à un bien-être physique, mental des touristes.
Quels seraient les défis auxquels les aires protégées doivent faire face?
Alors, les aires protégées sont confrontées à plusieurs défis, notamment la pression du développement industriel, l'urbanisation croissante et les impacts des changements climatiques. Je peux dire, la gestion efficace de ces zones nécessite des ressources financières et humaines adéquates. La communauté locale sont impliquées dans la gestion de ces aires. Alors, comment les peuples, comme le peuple autochtone, jouent un rôle essentiel dans la conservation étant les gardiens des terres depuis des millénaires? Le Canada reconnaît l'importance de leur leadership en matière de conservation et s'engage à travailler en collaboration avec eux pour cette gestion. Alors, les citoyens aussi peuvent soutenir la conservation en visitant ces aires de manière responsable, en participant à des programmes de bénévolat, s'informant les enjeux environnementaux et soutenant aussi les politiques publiques favorables à la protection environnementale.
Mais écoute, c'est un sujet que tu sembles quand même bien connaître parce que bon, ton étude de thèse à l'université a porté sur ce lien-là entre croissance économique et aires protégées. Quel résultat tu dirais que tu as pu observer concernant le cas du Canada?
Oui, en effet, dans notre étude, nous avons examiné spécifiquement la relation entre croissance économique mesurée par le produit intérieur brut par habitant et l'étendue des aires protégées terrestres dans les pays de l'OCDE, les 38 pays, dont le Canada aussi. Nous voulions vérifier si ce lien suit la courbe environnementale de Kuznets, connue sous l'acronyme EKC. Pour rappel, l'EKC, cette courbe, décrit une trajectoire particulière. À mesure qu'un pays se développe économiquement, l'environnement subit d'abord une dégradation accrue jusqu'à atteindre un certain seuil. À partir de ce seuil-là, qu'on appelle le seuil de retournement, à partir de ce seuil, la relation s'inverse et la croissance économique commence à favoriser une meilleure protection de l'environnement grâce à une prise de conscience accrue, de politiques publiques plus solides, de ressources financières, etc. Revenons à nos moutons, dans le contexte canadien, notre analyse a montré des résultats intéressants en fait, car on a observé effectivement que le Canada, ayant franchi ce seuil critique, se situe dans la phase ascendante de la courbe environnementale de Kuznets. Et cela signifie que l'augmentation du PIB par habitant canadien s'accompagne désormais d'une augmentation substantielle et significative statistiquement des superficies consacrées à la protection environnementale. Ces résultats corroborent directement les engagements récents du Canada, notamment les objectifs 2025 et 2030. En effet, ces engagements reflètent précisément cette logique économique écologique mise en évidence dans notre étude. Plus le pays est riche et développé économiquement, plus il est en mesure de mobiliser des ressources importantes et efficaces pour préserver ses écosystèmes.
Est-ce que, selon toi, il existe un risque entre la relation, que les plus on est économiquement riche, mieux on protège notre environnement. Est-ce que tu dirais qu'il y a un risque que ça s'inverse à nouveau si l'économie tombe en récession, par exemple? Est-ce qu'on peut éviter ça?
En fait, c'est une excellente question, car effectivement, oui, le risque existe bel et bien. Si la prospérité économique facilite la mobilisation des ressources vers la conservation, une crise économique prolongée pourrait inverser cette dynamique. Cependant, le véritable enjeu, est de rendre la conservation indépendante ou de moins en moins vulnérable au cycle économique. Pour éviter ce piège, le Canada pourrait adopter une stratégie novatrice que j'appellerais la résilience écologique économique, basée sur trois piliers. D'abord, la diversification des ressources de financement, de la conservation en intégrant davantage les contributions des secteurs privés et associatifs indépendants des fluctuations du budget public. Ensuite, impliquer profondément la communauté locale autochtone en s'appuyant sur leur savoir traditionnel pour garantir une gestion efficace et durable, moins coûteuse et plus autonome. Et enfin, créer des incitatifs économiques durables, par exemple, des mécanismes fiscaux ou des instruments financiers innovants comme des obligations vertes, en fait, qui existent, qui encouragent une économie stable de la conservation, même en période de ralentissement économique. Ainsi, pour la protection de l'environnement, ne serait plus une conséquence positive de la richesse, mais plutôt une condition préalable, voire un moteur de cette prospérité économique durable que nous visons tous.
Et rapidement, à quel point la volonté gouvernementale est importante aussi dans la conservation de l'environnement, parce qu'il y a des partis qui sont un peu moins favorables envers l'environnement, qui bon, sont en lice pour la campagne qui va être déclenchée bientôt. À quel point tu dirais que ça joue un peu beaucoup sur l'environnement?
En fait, concernant les aires protégées, il y a toujours des organisations, des associations qui incitent cela. Okay. Même des entreprises qui disent comme quoi nous sommes pour les aires protégées, pour les préserver. Mais en termes gouvernementaux, il y a toujours des budgets consacrés, des investissements consacrés à cela. Mais ça reste quand même quelque chose critique qui n'est pas quand même une priorité pour le moment, mais ça reste quand même quelque chose.
Mais ça pourrait le devenir.
Ouais, ça pourrait devenir. Oui, c'est un projet qui existe. Ouais.
Excellent. Ben merci beaucoup, Otman.
Au plaisir.
On fait une courte pause ici. On rejoint notre prochain invité ici sur les ondes de CFA 88.3.